sur ces sujets, sur la famille.
On a entendu donc il y a deux jours maintenant David, et bien enfin, maintenant.
C'est un peu plus compliqué.
Donc la famille et le virtuel. La famille et le visuel. Cultiver la réflexion et la créativité. Autrefois la France était une monarchie. Aujourd'hui on se veut une démocratie. Mais plusieurs se demandent s'il faut pas, si nous ne sommes pas devenus une médiacratie. C'est un mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Une médiacratie, c'est-à-dire dominée et dirigée par le bombardement des images que nous donnent les médias. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est à quel point cette médiacratie domine notre foyer, notre vie, nos enfants, la façon que nous élevons une famille. Alors nous allons considérer la vénération de l'image de notre société qui, il faut avouer, a une telle influence sur nos enfants et sur nos foyers. C'est une évidence que les images prennent de plus en plus de place dans notre fonctionnement, dans la vie quotidienne et courante. Moi-même, dans ma propre façon de fonctionner, je reconnais un changement grâce au progrès et à la technologie. Au début, quand je suis arrivé en France, pour donner les nouvelles à ma famille, j'écrivais une lettre. Déjà, c'était un email. J'écrivais, je racontais tout ce qui m'est arrivé dans la semaine et je l'envoyais. Et puis, surtout avec la naissance de Simeon, mes parents nous ont offert un appareil numérique. Alors là, pour donner des nouvelles, j'envoyais plein de photos avec quelques mots d'explication. Et puis, encore mieux, récemment, l'Église nous a offert un caméscope. Alors là, c'est encore mieux, je vous envoie quelques séquences vidéo, et inutile d'écrire quoi que ce soit. Et vu la réponse, il faut croire que j'ai beaucoup plus de succès avec ces séquences vidéo que de me lire, ils aiment beaucoup plus. Après tout, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Mais c'est la question qu'on se pose ce matin. Nous vivons dans un monde où l'image est tout, les images sont tout. Même en réfléchissant, combien d'écrans nous entourent-elles quotidiennement? Il y a l'écran de l'ordinateur portable, l'écran de l'ordinateur fixe, l'écran de l'appareil numérique, l'écran du GPS, l'écran du caméscope, le petit écran. On appelle ça le petit écran, ça se trouve presque dans toutes les maisons, maintenant dans toutes les pièces pour certains. Il y a le grand écran qu'on trouve en ville, il y a tous les panneaux publicités qui deviennent de plus en plus des écrans numériques. Tout ça a un flot constant d'images. Alors avec tant d'écrans, il est évident que le fonctionnement de la famille sera affecté. Alors, quelle doit être notre attitude? Comment gérer cette affaire? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. D'abord, je m'attends beaucoup mal que pour le peuple de Dieu, il a toujours existé un antagonisme, une rivalité entre l'image et la parole. Et donc, nous allons voir l'historique de cela à travers la Bible. Et puis, nous allons voir les raisons pour laquelle cette rivalité existe. D'abord, on constate que le peuple de Dieu a toujours été, ou devrait l'être, un peuple du livre, tandis que les nations autour d'eux, les nations païennes qui les entouraient, étaient toujours profondément attachées aux images. Et les technologies ont beaucoup changé, oui, à travers les siècles, mais le fond du problème n'a pas changé. Il était toujours. Il existe une tension, comme dit un auteur, longue et irréconciliable entre la parole et l'image. Nous allons voir ça dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, et puis dans la période après le Nouveau Testament jusqu'à présent. On commence avec l'Ancien Testament, on pense au peuple de Dieu qui était entouré par les nations païennes autour d'eux, notamment les Égyptiens, et puis les Cananéens, et puis les Babyloniens. Pensez aux Israélites dans le contexte de l'Égypte. Et on va aller en Exode, nous sommes au mont Sinaï. Et là, c'est un peu la naissance de cette nouvelle nation, avec des nouvelles lois, avec une nouvelle culture. Comment démarre-t-elle cette nation? Exode 31, verset 18. Exode 31, 18, Moïse va monter sur la montagne et Dieu va lui dire un peu toutes les nouvelles façons de fonctionner en tant que peuple, en tant que nation. Et verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Et un peu plus loin, verset 16, chapitre 32, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc voilà, on a ces tables de pierre, c'est un peu le premier livre juif. Et sur ces tables de pierre, vous savez ce qui était écrit, la première chose que Dieu dit à son peuple, donc il s'agit des 10 commandements, et connaissez les 10 commandements. Les 10 commandements commencent en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, ni d'image, représentation quelconque, des choses qui se trouvent en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et plus bas que la terre. » Alors là, vous comprenez à quel point cette idée est radicale pour les Israélites qui ne connaissaient la vie qu'à la manière, la vie et le culte qu'à la manière égyptienne. Vous connaissez l'Égypte. L'Égypte était très portée vers les images et l'effet visuel. On a les pyramides, les grandes pyramides, les sphinx, les statues à l'entrée du temple. Vous voyez ces personnages, ces chars, ces assis. Quand on arrive, et encore aujourd'hui, on va aller visiter ces grandes, énormes choses. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'un des plus grands casinos à Las Vegas a pris le thème de l'Égypte antique pour exploiter tout son showbiz, parce que le thème est tellement exploitable. Là, dans ce casino, ils ont un des plus grands écrans du monde. Et parce que voilà, l'Égypte antique s'y prête bien. Eh bien, toutes ces images, tous ces objets visuels en Égypte réclamaient bien sûr un culte, une adoration. Alors, quand Dieu appelle son peuple hors d'Égypte pour instituer un nouveau culte, une nouvelle nation, voilà, la première chose qu'il leur fait comprendre, c'est qu'il n'y aura plus d'images, plus de représentations virtuelles. Vous serez désormais un peuple du livre. Votre culte, votre religion, votre manière de fonctionner sera basée sur une écriture. Et c'est, on voit Moïse, il descend de la montagne avec un livre, avec deux tables du prêt. Il ne descend pas avec un DVD, il ne descend pas avec une photo de Dieu, il descend avec un livre. Voilà ce qu'un auteur écrit. Il dit « Désormais, le Dieu des Juifs allait exister dans la parole et par la parole, une conception sans précédent nécessitant le plus haut niveau de la réflexion abstraite. » L'iconographie donc devient blasphématoire pour qu'une nouvelle sorte de Dieu puisse entrer dans la culture. Et c'est vrai, les Juifs, même par les autres nations autour, encore aujourd'hui, vont être connus comme le peuple du livre. Le peuple du livre. Voilà, ce qui est ironique un peu, c'est que pendant que Moïse reçoit cette révélation de Dieu, cette écriture, les Israélites en bas, leur premier réflexe qu'ils ont chopé d'Égypte, c'était de se faire une image, une idole, selon la manière égyptienne. Et bien sûr, associé à cette image, c'était toutes les activités que cela les amenait à faire, le divertissement païen, une musique qui ressemblait à un bruit de guerre, et le désordre général, vraiment la vie purement païenne que Moïse et Josué vont voir en descendant. Et c'est justement cela auquel Dieu veut mettre fin en disant non, plus de tout ça, on serait maintenant un peuple du livre. Alors, le fait de devoir abandonner les images pour s'attacher aux Écritures va fortement influencer la culture juive en opposition aux cultures païennes autour, notamment par rapport à l'éducation et les activités familiales. Lorsqu'on lit en Deutéronome chapitre 6, verset 6, Dieu s'adresse à tout le peuple, Deutéronome 6, verset 6, il dit, et ses commandements, littéralement, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Là, il s'adresse aux juifs, à tout juif, tu. Et cela, ça montre une nouvelle vision de la société, notamment dans la capacité globale de lire et d'écrire. Tu les écriras, tu les mettras dans ta maison. Et là, Dieu introduit, en quelque sorte, l'idée de l'alphabétisme global pour tout le peuple, contrairement à ce qu'on trouve dans quasiment toutes les civilisations païennes, c'est-à-dire l'alphabétisme de l'élite, où il y a juste quelques-uns qui peuvent lire et le peuple moyen est illitré. Et là, ça va vraiment changer la culture même. Un historien, alors, ce qu'il dit, les Hébreux étaient la seule civilisation d'Antiquité à essayer d'apprendre l'alphabétisation à tous. C'est-à-dire depuis le plus petit au plus grand. Et on voit ça, l'éducation juive, désormais, va mettre l'accent sur ça, pouvoir lire, pour lire la parole de Dieu, pour accéder à la vérité, pour pouvoir faire le vrai culte que leur Dieu demande. Totalement opposé donc à la manière égyptienne de concevoir la chose. Alors malheureusement là, le peuple n'a pas bien respecté tout ce que Dieu leur a dit de faire dans sa parole, et donc là, ils entrent en Israël, ils sont entourés maintenant par ces nations cananéennes et ils sombrent dans l'idolâtrie, dans l'adoration des images, justement parce qu'ils s'éloignent de la parole, ils s'attachent de plus en plus à ces images autour. Et c'est en partie parce que les rois ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire, en force dans Deutéronome 17. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Il devrait la voir avec lui et il lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. C'est justement ce que les rois n'ont pas fait, et au lieu de s'attacher à la parole écrite, ils sont allés vers les images des Astartés, des Baals, Moloch, les Vaudor, tout ce que Dieu a interdit, et donc Dieu va devoir juger son peuple et les envoyer en exil en Babylone. Alors là, les Israélites, encore une fois, se retrouvent entouré par une culture très portée vers les images et l'effet visuel. Vous connaissez le Babylone, la gloire du Babylone, la réussite, c'était en grand, quelque chose qui frappait les regards. On le voit dans l'attitude de Nebuchadnezzar. Il est là sur son palais, il voit sa ville, il voit, regarde, c'est Babylone la grande, la ville que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. C'est-à-dire qu'il veut montrer, il veut frapper les regards par la gloire de ce qu'il a pu bâtir dans cette ville. Je me souviens avec Tadeko, on était au British Museum cette année à Londres et il montrait les restes de ces civilisations assyriennes et babyloniennes. Et le guide disait justement, écoute, il y avait des grandes fresques, des grandes statues, des grandes salles. Et le guide disait que c'était pour frapper les regards. C'est-à-dire, quand on arrivait au palais ou arrivait au temple, on voyait ces énormes, soit lions, soit moitié lion, moitié homme, tout ça. C'était pour frapper les regards. Elle disait que la façon qu'ils transmettaient leur tradition, leur culte, c'était ces dessins, où dans le dessin, ils dessinent le dieu, et puis chaque objet représente quelque chose. C'était comme ça qu'ils propageaient la culture et le culte. On voit Nebuchadnezzar, et ça. Son désir de vers les images, il va s'amuser à construire une grande statue, très grande, une grande image de lui-même, et il va obliger tout le monde à venir, il va mettre une musique très forte, et chacun va devoir se prosterner, adorer l'image. Heureusement, il y a trois jeunes juifs qui disent non, c'est pas ainsi, on est attaché à Dieu, le Dieu du. Et on a lu dans notre livre que c'est pas ce qu'il faut faire. Un peu plus tard, là, encore à Babylone, pour montrer leur tendance, les effets visuels, ils vont faire une fête, une grande fête, pour louer les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre, comme il dit en Daniel. Et donc, on va embellir la salle avec des objets qui vont encore nous donner quelque chose à voir, donc ils font venir ces objets du temple des Israélites, les coupes et tout ça, pour vraiment faire la fête en grand, pour s'amuser. Et puis, la fête s'arrête abruptement par une écriture, par une main qui écrit sur le mur. Et ces quatre mots sur le mur vont s'opposer à toute cette fête, toute cette réjouissance et Belshazzar et le peuple vont être sciés par cette écriture. Heureusement, là, par cet exil en Babylone, Dieu oui, a vacciné son peuple une fois pour toutes contre les images, les idoles en tout cas. Et ils vont donc revenir dans le pays. Et là, le retour en Israël se voit développer le rôle justement de la synagogue et des scribes et tout ça. Le but étant de la synagogue, c'était pour transmettre la parole de Dieu, l'écriture de Dieu. En semaine, c'était ça servait comme une école, parce que pour les enfants juifs, pour qu'ils apprennent à lire, qu'ils aient accès aux écritures. Puis le sabbat, c'était pour liser la loi de Dieu. Et donc, le désir, en tout cas, de remettre et garder la parole au centre. Après, il y avait, quand Jésus arrive sur le territoire en Israël, il n'y a pas les images, mais il y a encore une grande soif pour l'effet visuel. Et les objets, les pharisiens sont très portés vers le temple, vers le côté extérieur. Et sans le savoir, ils avaient remplacé la parole par un amour pour ceux qui frappent les regards. Alors donc, vous voyez dans l'Ancien Testament, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Assyriens, les Babyloniens, les Cananiens, c'était toujours pareil. Il y avait une tension entre le peuple du livre et les païens avec leurs images, et bien sûr les activités auxquelles ces images conduisaient infailliblement. Et puis, on a le Nouveau Testament, le peuple de Dieu dans le contexte gréco-romain. Alors, si les Grecs avaient un côté philosophe, Ils avaient aussi, comme vous le savez, un côté très porté vers les images et vers l'art. Vous pouvez le voir au Louvre, ou vous pouvez le voir en Actes chapitre 17, comme Paul se trouve à Athènes. Qu'est-ce qu'il voit tout autour de lui, partout dans la ville? Des images, des idoles, des statues, tout ça. Vous avez peut-être étudié la mythologie grecque à l'école, comme moi. On apprend toutes ces histoires avec le dieu, et chaque dieu a une histoire qui tourne autour. Et c'était vraiment à l'époque comme les stars de Hollywood aujourd'hui. Les dieux, ce qui fascinait les gens, c'est qu'ils avaient des puissances, une certaine célébrité, mais ils étaient aussi très corrompus, ces dieux. Et donc, ça, les gens suivaient ça. Vous connaissez les Grecs, il y avait un amour pour les statues, pour un visuel sensationnel. Alexandre le Grand a fait reconstruire le temple de Diane pour être vraiment une merveille du monde. C'était énorme, énorme, le statue de Diane, bien sûr avec tout le culte qui l'entourait. Les Olympiques, une grande attraction pour les Olympiques, c'était de voir les participants, hommes et femmes, jouer nus. Là, on peut parler maintenant de la culture romaine, qui, comme vous savez, aussi était très portée vers les images, vers le visuel. Vous connaissez leur attachement, ils réclamaient du pain et des jeux. Ils avaient toutes ces arènes, tous ces endroits pour justement assister au spectacle. J'habite, moi, à Toulouse, près des arènes romaines. Il y avait des arènes de partout. Qu'est-ce qu'on faisait à ces arènes? Il y avait le sport, il y avait le théâtre, il y avait les gladiateurs, il y avait tout ça. Il y avait la persécution des chrétiens. L'empereur Tite, une fois, a inondé l'amphithéâtre pour mettre en scène une bataille navale. Donc, déjà, les effets spéciaux, il les réalisait pas mal. Hein. Les gladiateurs étaient des héros de la foule. Tout comme les sportifs aujourd'hui, on pouvait acheter des vases en porcelaine avec leur image gravée dessus. Le théâtre était très très répandu, on assistait beaucoup, avec un contenu très porté vers le sexe et la violence. Un empereur du IIe siècle a décrété que les actes sexuels joués sur la scène soient pour le vrai. Et c'est ça qui intéressait le monde. Et les chrétiens, donc, vivaient dans cette culture-là. Et donc, comment on lit par exemple 1 Pierre chapitre 4, versets 3 et 4? Comme Pierre dit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même dégoulinement de débauche et vous calomnie. Les chrétiens de l'époque savaient ce que cela voulait dire, entourés par cette culture romaine avec tout ce dérèglement, ces convoitises, ces orgies, ces idolâtries criminelles, cet amour pour l'image. Ou bien comme Pierre dit encore dans cet épître, chapitre 1, verset 14, il exhorte les chrétiens. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Convoitises avec les yeux, c'est vrai. Quand vous étiez dans l'ignorance. Et puis dans ce chapitre suivant, il va les attacher, au contraire, il va les encourager à s'attacher au contraire à la parole. Verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. De tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et puis, chapitre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur de la parole. Donc voilà, les chrétiens, vous voyez, dans le contexte gréco-romain, ils étaient entourés par ce paganisme très porté vers les faits visuels et les images, et eux, ils devaient s'abstenir et s'attacher aux livres, aux paroles, à l'écriture. Et puis maintenant, donc, on passe aux périodes post-testamentaires, on a vu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et maintenant le peuple de Dieu dans le contexte du catholicisme, principalement. Et encore une fois, le peuple de Dieu n'a pas pu rester attaché aux paroles, aux livres, et avec cette soif de l'image et du spectacle, le catholicisme est né. Je dirais qu'inné au catholicisme, c'est qu'on nourrit la foi par les images et non pas par la parole. Qu'est-ce qu'on appelle les images dans le catholicisme? C'est la petite image, maintenant on a repris le mot pour décrire la petite image que vous avez sur votre, le bureau de votre ordinateur, les icônes. Les icônes, littéralement, ça veut dire image. Mais c'était pour ne pas dire idole ou image, on disait icône. Et l'idée, c'est qu'il fallait une représentation, un effet visuel pour soutenir la foi. Alors, il y avait ces images de Christ, des saints, de tout, pour susciter la foi, parce qu'on ne voulait pas s'attacher au livre. Avec ça est développé, donc, je dirais, le catholicisme qu'on voit, le visible, les cathédrales. Le but, c'est de frapper les regards. Les touristes, on devine encore, ils voient une cathédrale ici en France, c'est énorme, c'est marquant, c'est frappant. Il y a le culte des saints, les reliques. En lisant la biographie de Martin Luther, j'ai compris, les reliques étaient le cinéma du Moyen-Âge pour satisfaire la soif du spectacle et des effets spéciaux. À Rome, il y avait un morceau du buisson ardent. Il y avait les chaînes de Saint-Paul. Il y avait une des pièces d'argent payées à Judas, capable de remettre 1400 ans de purgatoire. Il y avait un crucifix qui s'était penché un jour pour parler à Saint-Brigitte, etc., etc. Et donc les papes racontaient souvent tous les bienfaits qu'on recevait en regardant, en voyant de ses propres yeux, rien qu'un os saint avec toutes ses reliques. Alors, bien sûr, les gens, qui ne veut pas voir un morceau de buisson ardent? Bien. Alors, bien sûr, l'entrée était payante. Et pour entretenir ce business, il fallait absolument garder le peuple illettré pour que ça suscite l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'a fait la réforme? Eh bien, la réforme a permis le livre retrouvé, le livre imprimé, la Bible principalement, mais aussi il y avait d'autres choses, les tracts de Luther, et les gens commençaient à lire et écrire, et ça a sorti l'Europe, en tout cas, du Moyen-Âge. C'est Thierry qui m'a amené au statut de Gutenberg à Strasbourg, il est là, Gutenberg, et il a un livre et sur le livre, il y a gravé une phrase. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Et là, le statut est très parlant. C'est le livre, c'est Gutenberg, la presse, qui a permis que la lumière soit. Voilà ce que Gutenberg a dit lui-même un jour. Il était devant sa presse. Il dit, oui, c'est une presse d'où coulerait bientôt un fleuve intarissable, la vérité pure. Comme une nouvelle étoile, elle dissipera les ténèbres de l'ignorance et fera luire la lumière parmi les hommes. Voilà. Même beaucoup, tous sont d'accord que c'est le livre qui nous a sorti du Moyen-Âge. Mmh. Et là, ce sont les protestants qui ont commencé les écoles pour que les enfants sachent lire et écrire. Dans le but qu'ils lisent un jour la Bible avec la réflexion nécessaire pour comprendre, pour décortiquer. Et on retrouve un peu la vision des synagogues à l'époque. Il fallait que chacun puisse lire pour avoir accès à la vérité, à Dieu, et pouvoir faire la culte, la religion comme lui, il le veut. Et là, c'était le coup fatal au paganisme que le catholicisme propageait si facilement par l'ignorance et la superstition, et par les images, et la soif du spectacle. Non, on est iconoclaste et on remet la parole au centre. On a été à Genève récemment, il y a ça fait rêver, un ex-cathédrale. Un ex-cathédrale, c'est l'église de Saint-Pierre, On enlève toutes les images, on enlève tout ça, et il n'y a que les murs, les chaises et la grande chaire au milieu avec la Bible ouverte. Et c'était ça, les processus. On casse les images et on remet la parole au centre. On la lit, on la prêche. Voilà. Je cite Ralph Winter, c'est un grand missiologue de notre temps. Il a constaté ceci en pensant à toute l'histoire de la mission. Il dit, il y a deux choses dans toute l'histoire de la mission qui ont été absolument centrales. Premièrement, la Bible. Deuxièmement, la page imprimée. Comme méthode, il n'y a absolument rien d'autre qui surpasse l'importance de la page imprimée. Les réunions passent, les personnalités apparaissent et disparaissent, mais la page imprimée parle encore. Alors, vous voyez, que cela soit les Juifs ou les chrétiens, à travers toute l'histoire de la révélation de Dieu et de l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu a été toujours différencié des païens, du paganisme autour, par leur attachement au livre et leur iconoclasme, en quelque sorte, leur capacité de repousser les images. Alors pourquoi, maintenant on a vu cette histoire, pourquoi cet antagonisme, pourquoi cette rivalité entre la parole et l'image? Pourquoi Dieu a poussé son peuple vers le livre, tandis que Satan visiblement pousse les nations vers les images et le culte des images, cette adoration, cette soif du visuel? Je vous propose trois raisons, il y en a peut-être d'autres. Mais premièrement, l'erreur doit se baser sur la subjectivité, tandis que la vérité a forcément besoin d'un support objectif. L'erreur aime la subjectivité, un support subjectif, alors que la vérité veut l'objectivité. Et cela remonte à Satan dans le jardin, quand il a réussi à convaincre Ève de s'appuyer sur ses sensations, ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait, au lieu de la parole objective déjà donnée par Dieu. En Genèse 3, voilà, elle vit que l'arbre était bon et manger est agréable à la vue. Alors c'est là qu'il a conduit à apprendre, bien qu'elle avait la parole de Dieu qui disait non, il ne faut pas. Et l'image est beaucoup plus subjective pour deux raisons. Premièrement, elle peut être facilement manipulée. Et deuxièmement, elle peut plus facilement agir sur nos émotions plutôt que notre intellect. Et les émotions ne sont pas toujours un bon guide pour marcher dans la vérité. L'image est plus facilement manipulée et l'image agit plus facilement sur nos émotions. Les publicités, les médias, ils ont bien compris cela. Pour eux, c'est facile. C'est facile de présenter même les enfants de manière trafiquée, manipulée ou interprétée. Récemment, une entreprise a amené les médias devant les tribunaux parce que les médias, c'était une émission des infos, les infos du soir. Mais il y avait une explosion du camion, les médias avaient ajouté de l'explosion, alors qu'ils étaient censés montrer ce qui... C'était même pas un film, c'était des infos du soir. Vous allez en ville, il y a des publicités partout, mais il n'y a pas une seule publicité qui n'est pas trafiquée. Photoshop, c'est bien simple. Et on a carrément, on peut modifier les choses. Mais, c'est ça la piège, l'image nous fait penser, nous fait croire que c'est en effet la réalité. Quand on le voit, mais voilà, je viens de voir quelque chose de réel, de l'actuel, et l'image reste dans la pensée, alors qu'on oublie que c'était complètement trafiqué, inventé. Et puis, l'image aussi joue sur les émotions beaucoup plus facilement. Par la manière que l'image est présentée, par la musique qu'on joue derrière, là, on arrive facilement à contourner l'intellect et la réflexion saine et influencer simplement les émotions des gens. On parle de la réalité virtuelle. Mais justement, la réalité virtuelle n'est pas la réalité. l'ordinateur avec les jeux et le monde de l'internet nous offre une non-réalité, la non-réalité d'un monde virtuel qui peut nous faire oublier la réalité du monde réel. Mais voilà, ça, tout est trafiqué, tout est manipulé, tout est toujours sur nos émotions et forcément l'erreur se présente plus facilement. Une deuxième raison pour cette rivalité, c'est que de l'image à l'idole, il y a juste un petit pas à faire. C'est-à-dire qu'il existe un lien très fort entre l'image et l'idole. L'image devient facilement pour l'homme l'idole. Et cela est vrai quand on pense au vocabulaire même de la Bible. À partir d'Exode 20 avec les 10 commandements, le mot pour image devient synonyme pour le mot idole. Tu ne feras pas d'image, c'est-à-dire, ni de représentation, le mot encore image, quelconque. Comme on a vu, le catholicisme, pour ne pas dire idole, ils disent icône, image. Mais ça remonte à la même chose. Alors, bien sûr, Dieu n'est pas contre les images en soi, mais comme, quand l'homme s'arrête aux images pour ne pas voir le Créateur au-delà, cela s'appelle l'idolâtrie. Et le serpent d'airain est un bon exemple. Dieu avait donné une image à son peuple pour susciter leur foi, pour expliquer la vérité, etc. Mais ils n'ont pas pu se priver d'en faire une idole. Et il y a cet attachement marqué pour les images qui est inné en chacun de nous. En vrai, Romains chapitre 1, cela décrit en quelque sorte la nature humaine, la nature païenne, innée dans le cœur de l'homme. Romains 1. Je vous attire l'attention simplement sur le verset 23. Voilà ce que l'homme a fait. Je lis en verset 22. Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà, c'est ça le crime de l'humanité, quelque part, c'est d'échanger la gloire de Dieu pour une image qui est moindre, une image de l'homme ou de toutes sortes d'autres choses. J'aime bien ce qu'un auteur dit, il dit « L'idolâtrie, c'est l'adoration des images, c'est le fascisme de l'œil, le pictorialisme, le ritualisme, la grandiosité, le colossalisme, le sensationnalisme. » Et cela explique, je crois, l'immense attrait des films, le grand écran. On veut voir quelque chose de plus grand, plus beau, plus parfait que nous-mêmes. Et ça montre que oui, l'homme a une soif de voir la gloire, mais s'il ne veut pas combler cette soif avec Dieu lui-même, il est obligé de tourner vers, de faire l'idolâtrie. Et en pensant, oui, j'ai dit, ultimement, nous sommes créés pour l'effet audiovisuel. Nous sommes créés pour l'audiovisuel, mais cet audiovisuel ne sera pas moins ce que Dieu lui-même. Au ciel, nous n'allons pas lire, nous allons voir, nous verrons Dieu, c'est la grande promesse, la grande attente. On arrive à Apocalypse 22 et ils verront Dieu. Et là, plus besoin d'image, nous verrons Dieu. Mais d'échanger cette réalité-là avec quelque chose de moindre, oui, c'est l'idolâtrie. Et l'homme a toujours une tendance vers cela. Il est évident que les images de l'écran sont devenues de vraies idoles pour notre société. Les stars du cinéma et de la scène sont devenues, oui, des idoles de notre génération. L'émission la plus suivie aux États-Unis actuellement s'appelle American Idol, l'idole américaine. Voilà comment ça se passe. On prend un groupe de personnes. On leur donne l'image, on les met sur la scène, on les fait chanter, etc. Et puis, on crée une idole pour le peuple. Et les gens votent. C'est encore autre chose, mais c'est le même genre de choses.
Et les gens
se raffolent de ça. Ils veulent qu'on leur donne une idole sur l'écran. Cela explique aussi l'immense attachement à l'image personnelle. Maintenant, on dit l'image est tout. Tout ça, c'est à cause de ces idoles qu'on a présentées devant les gens. Ils ont comparé les journaux intimes de filles, de filles adolescentes, du fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle. Alors, en 1892, une entrée typique d'une fille adolescente, je lis, résolue de réfléchir avant de parler, de travailler avec du sérieux, de me restreindre davantage dans mes conversations et mes actions, d'être dignifiée et plus intéressée aux autres. Comparer cela avec une entrée 100 ans plus tard d'une fille de la même âge. Voilà ce qu'elle écrit dans son journal intime. Je vais essayer de m'améliorer par tous les moyens possibles avec l'aide de mon budget et l'argent que je gagne du babysitting. Je perdrai du poids, j'achèterai de nouvelles lunettes, je me suis déjà fait une nouvelle coiffure, je prendrai du bon maquillage et de vêtements neufs. Voilà sa résolution à elle. Et encore, dans le premier cas, on veut améliorer le fond, on veut améliorer le caractère, tandis que maintenant, on veut améliorer simplement l'image, l'extérieur. D'où vient ce changement? D'où vient ce changement dans les mœurs, dans les années? C'est quand on s'est mis à idolâtrer les images. Cette soif d'image, on prend pour nous-mêmes. Jésus lui-même, on a teinté avec un peu l'effet visuel, le diable, probablement dans la plus forte tentation qu'il a eue pendant qu'il était sur la terre. Le diable l'ayant élevé, lui montra en instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit. Tu n'adoreras pas d'autre. Donc l'image qu'on voit devient facilement l'idole qu'on se donne. Et puis, une autre raison pour cette rivalité entre la parole et l'image, c'est que l'image, plus que la parole, je crois, est particulièrement appropriée pour propager les valeurs innées au paganisme, notamment le sexe et la violence. Et là, on voit, le paganisme se voit très bien aujourd'hui, non pas en Canaan, mais dans notre salon. Avec les mêmes pratiques sexuelles et violentes qui nous sont encouragées. Il n'est pas difficile de voir la correspondance presque exacte entre les dieux des civilisations antiques et les valeurs que les images des médias aujourd'hui nous donnent. Les dieux et les déesses païens étaient systématiquement les dieux de la fertilité et les dieux de la guerre. Sexe et violence. Et le culte à ces dieux consistait justement à la débauche, au sexe et à la violence. Il y avait Moloch. Comment on adorait Moloch? Eh bien, on passait les enfants par le feu, on chauffait les bras de cette statue Moloch, on posait l'enfant, le petit, et on jouait à côté une musique très forte pour étouffer les cris de victimes. Il y avait Baal Peor, Diane, Astarté, tout ça c'était plus ou moins des dieux ou des déesses de la fertilité, et donc pour ça il y avait la prostitution au temple, on venait au temple et pour faire descendre la fertilité, on s'engageait dans la débauche pour faire agir le dieu qu'il envoie sa bénédiction sur le territoire. Et quand on regarde aujourd'hui le culte et les activités que suscitent la télé et le cinéma et le monde virtuel sont exactement pareils, le sexe et la violence. Et dans le fond, il y a bien des différences entre les cliniques de l'avortement et les bras de Moloch. On y adore les mêmes dieux en faisant les mêmes activités. Non pas bien sûr qu'il est impossible de lire ou d'écrire les mauvaises choses, les choses contre Dieu, mais une image c'est tellement plus forte, c'est tellement plus elle a tellement plus d'influence. C'est intéressant, avec les premiers kinétoscopes, c'est-à-dire les premières machines qui faisaient dérouler une image mouvante, c'était les premiers films en quelque sorte, il y avait la boîte, on mettait une pièce d'argent et on s'approchait l'œil, une petite œillet, pour voir une petite scène de la vie qui se déroulait. Alors voilà les scènes possibles. Un homme qui éternue. Un homme marié qui embrasse sa secrétaire. Un cambriolage. Une femme qui essaye de tenir sa jupe alors que le vent la soulève. Les danseuses de cabaret. Vous voyez, dès le début, l'attrait pour le sexe et la violence. Comparez cela avec le premier ouvrage de l'imprimerie. C'est de la Bible, c'est de la Bible. Ou bien le premier message transmis par le télégraphe entre l'Europe et l'Amérique. Il y avait la reine d'Angleterre et le président des États-Unis qui se parlaient, voilà ce qu'ils se sont dit. L'Europe et l'Amérique sont unies par le télégraphe. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. J'ai lu cette semaine dernière, en préparant, la presse nigérienne rapporte cette semaine que lorsque des écoliers nigériens ont reçu des ordinateurs portables d'une association humanitaire, ils les utilisèrent tout de suite pour accéder au site pornographique. Google, c'est très utile. Je m'en sers tous les jours. Un des dirigeants de Google a écrit récemment un article, un grand quotidien. Il a remarqué qu'au veille des élections présidentielles, les gens étaient moins intéressés par la politique du président et de son adversaire. Par contre, le moteur de recherche a reçu beaucoup de demandes avec les mots-clés « Jennifer Lopez nu ». C'est-à-dire, comment ? Et c'est un triste commentaire sur la société quand il s'agit de choisir son président. On est plus intéressant par d'autres choses. Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles cette rivalité, cette tension existe entre la parole et l'image. Et donc là, en ce qui concerne les familles, les foyers, pour toute famille chrétienne, il existera, il faut le savoir, une lutte à mener entre la parole et l'image pour préserver la vérité et le culte au vrai Dieu. Bien sûr, il ne s'agit pas de répudier toutes les images et toute la technologie. Par contre, c'est la naïveté de penser que la technologie et les images sont neutres. Et c'est vraiment faciliter la victoire du paganisme dans la vie de nos enfants que les divertir uniquement par le moyen de l'image. Justement, c'était les puritains qui disaient que le projet principal de Satan est de garder les hommes des Écritures. Le projet principal de Satan, c'est de garder les hommes des Écritures, et c'est quand on voit aujourd'hui, oui, il a réussi fort bien avec tout le monde virtuel, le monde visuel qu'il donne, et qui empêche la génération suivante à lire, à avoir accès aux paroles. Aujourd'hui, on revient petit à petit à l'état des civilisations d'autrefois, où il y avait un alphabétisme de l'élite, mais les gens moyens ne savaient pas lire. Et beaucoup de moins de gens on veut lire, on veut connaître la vérité, réfléchir. Alors je termine avec trois conseils pour cultiver une réflexion et une créativité au sein de nos foyers. Trois choses peut-être à faire. Lisez, limitez et liquidez. Lisez, limitez, liquidez. Je m'explique. Lisez. Voilà. Cultivez une appréciation pour lire. Là, il va falloir qu'on soit peut-être un peu iconoclaste et qu'on encourage la lecture. Un amour pour lire, beaucoup vient de là. Tous les grands hommes étaient de grands lecteurs. Moi, je peux constater que ce sont des bons livres qui ont changé ma vie plutôt que des bons films ou des bonnes photos. Que nos enfants nous voient lire, qu'on lise avec eux, qu'on les encourage à lire. Si vous disiez « Ah, moi, j'aime pas lire », c'est comme l'Américain qui dit « Ah, moi, j'aime pas le programme ». C'est-à-dire, il faut l'aimer. Thank you.
Il faut aimer lire.
Principalement dans la Bible. Mais il y a des histoires de la Bible, mais il y a tant de choses à lire, tant de littérature utile, biblique, les biographies missionnaires chrétiennes. C'est ça qui offre la réflexion et la créativité. On peut regarder quelque chose sur la télé, ou on peut le faire soi-même dans le jardin. Et c'est tellement mieux. Qu'est-ce que vous aurez lu cet été? Quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai demandé à tous les jeunes est-ce que vous aimez lire? Et systématiquement, on m'a dit non. C'est triste. Dans notre formation d'Éphèse, nous avons voulu faire lire des livres. Alors, la première année, nous avons proposé un livre par mois. Le résultat n'était pas super. Donc, la deuxième année, nous avons réduit à 4 livres par mois. Encore, ce n'était pas bien suivi. Donc, la dernière année, nous avons demandé un seul livre, qu'ils lisent un livre. Eh bien, cela est une chose qui s'est avérée très difficile pour beaucoup. 15 minutes par jour, vous lirez 20 livres dans l'année. 1000 livres dans une vie. Dire qu'on n'a pas le temps, c'est tout simplement faux. Lisez. Paul, il était en prison à la fin de sa vie, avec tout ce qu'il a vu, avec les visions célestes qu'il a eues, avec ses circonstances contraignantes de la prison, et tout ça, ne sachant pas ce qu'il allait devenir dans sa vie. Une des dernières choses qu'on a, nous transporte dans 2 Timothée, il demande à Timothée, apporte-moi des livres. Apporte-moi des livres, surtout les parchemins. Voilà. Paul aussi avait un attachement aux livres. Lisez, donc je dis, surtout encourager la lecture de notre famille, ça ouvre un monde utile pour qu'un jour ils aiment la lecture de la Bible. Si on n'aime pas lire, la Bible, oui, reste fermée. Limiter. Si on est prêt à limiter la quantité de coca et de bonbons que nos enfants mangent, et les obliger parfois à manger des carottes et des épinards, on devrait faire pareil peut-être dans le domaine de l'image. L'autre jour, on était chez une sœur de l'église, elle nous a reçus royalement, copieusement. Alors, les tas de bonbons sur la table, le coca à volonté, Simon et Étienne, ils étaient ravis de ça. Et c'est les deux mots qu'ils connaissent d'ailleurs, coca et bonbon. Étienne a appris coca bien avant maman et papa. Alors, on leur laisse avoir une certaine quantité, normalement, on dit non. Non, ça suffit. Voilà, tu peux avoir ça, une tomate, un raisin, mais le coca et le bonbon, c'est terminé. Dans le domaine de l'image individuelle, la santé mentale nécessite la même chose. Mon père m'imposait la lecture des fois. Voilà, ça, tu vas lire ce livre, tu vas nous faire un petit exposé à table. En 2004, on a trouvé que les Français passent 3h22 minutes en moyenne devant la télé par jour. 3h22 minutes par jour. Ça fait 24 heures par semaine. J'ai lu ça, c'est désespérant pour les prédicateurs. Que vont faire nos 30 minutes de dimanche matin, l'heure du dimanche matin, pour défaire 24 heures de moyenne. Le philosophe danois, Søren Kierkegaard, il est mort en 1855, c'est-à-dire 100 ans avant que la télé s'installe vraiment dans les foyers. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit une chose intéressante. Supposons que quelqu'un invente un instrument, une petite tube parlante, qui, disons, peut être écoutée dans tout le pays. Je me demande si la police ne l'intimiderait pas, craignant que tout le peuple deviendra mentalement dérangé. Et c'est des prophétiques, sauf que la police ne l'a pas interdit. Effectivement, l'écran peut être un véritable poison pour la vraie créativité, pour la vraie réflexion. Le conseil d'un pasteur à son église, il dit, mettez il lançait le défi, mettez la télé dans le placard pour un mois. Alors un homme est venu le voir et lui a dit, pasteur, ça n'a pas marché. Le placard n'était pas suffisamment grand pour toute la famille. C'est à la fin du culte, on dit, à la fin d'un message, on dit amen, vous êtes bonne semaine, on vous laisse partir. À la fin d'un livre, on ferme le livre. Mais la télé, l'internet ne fait jamais ça. La télé dit toujours, restez accrochés, on a toujours une suite pour vous. Internet, il y a toujours un lien de plus à suivre. Et vous avez vu, c'est un engrenage, et on dit jamais, bon, c'est fini. Proverbe 27, verset 20, le séjour des bords de l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. J'ai vu ça, peut-être vous connaissez ce cantique du 21e siècle. Le téléviseur est mon berger, je ne manquerai aucune émission. Il me fait reposer sur le canapé, il me dirige loin des saintes écritures. Il ravage mon âme, il me conduit dans les sentiers du sexe et de la violence à cause de l'argent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me réjouis du mal car il est bien présenté. Sa télécommande et son satellite me rassurent. Il dresse devant moi une publicité en présence de mes enfants. Il oint ma tête d'humanisme et ma convoitise déborde. Oui, la paresse et l'ignorance m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison devant la télé jusqu'à la fin de mes jours. Limiter peut-être l'ordinateur aussi. Je cite un pasteur. Il dit, quelle tristesse de voir les gens brillants, créatifs, dépenser des heures et des journées entières de leur vie à créer des villes, des armées et des aventures qui n'ont rien à voir avec la réalité. Nous avons une seule vie à vivre. Nos facultés nous ont été données par Dieu pour un monde réel qui conduit à un ciel réel et un enfer réel. Et ces facultés, où est-ce que nous allons les dépenser? Lisez, limitez, et puis troisièmement, et je termine avec ça, liquider. Liquider, c'est-à-dire si on n'arrive pas à limiter convenablement, il faut peut-être liquider, s'en débarrasser. Certaines images n'ont rien à faire chez nous, et on n'a rien à faire chez elles. La pornographie, certains films, certains journaux, il faut faire comme les enfants d'Israël, on dû faire avec leurs images païennes, les brûler au feu. Deutéronome 7, 26, Dieu dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Combien de nous lirait régulièrement le Coran à nos enfants? Ou combien de nous mettrait un Bouddha dans le salon pour vraiment embellir la maison? C'est une évidence, on ne veut pas mettre le paganisme sur un piédestal dans la maison, devant nos enfants. Alors, il doit être ainsi pour les images qui véhiculent trop souvent le paganisme. Voilà le verset que mon père citait toujours. Je termine juste avec le verset. Ici, c'est ce verset toujours pour savoir comment guider sa famille dans le domaine du virtuel. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Mm. Est-ce que les images, est-ce que ce qu'on met dans nos pensées, est-ce que ça qualifie devant ça vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange? La parole de Dieu, elle qualifie toujours. Il y a bien d'autres choses qui qualifient. Il y a bien des choses qui ne qualifient pas. On termine avec le psaume 119, verset 37. C'est la grande prière que nous voulons adopter pour nos vies, nos familles, dans ce domaine. Psaume 119, verset 37. Le psaume, bien sûr, qui parle principalement de la parole de Dieu, chaque verset mentionne la parole de Dieu. Et voilà la prière du psalmiste. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voix, c'est-à-dire dans ta parole. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Que ce soit la prière pour nos familles, pour nous-mêmes. Détourne nos yeux de la vue des choses vaines, pour s'attacher davantage aux paroles. Continuons. Seigneur, tu es un grand Dieu et effectivement notre grande avance c'est de te voir, d'être dans ton ciel où nous serons comblés, épanouis. Il y aura tant de gloire à voir, nous allons voir ta gloire. C'est pour cela que tu nous as créés et ce sera notre bonheur tout à l'heure. Et en attendant, nous ne pouvons pas échanger cette gloire pour rien de moins. Nous te prions de nous garder jour après jour. Je prie effectivement de détourner nos yeux de la vue des choses vaines dans ce monde rempli de choses vaines qui nous attirent, qui nous poussent vers la pensée païenne, la pensée contre toi. Nous te prions de nous préserver ainsi que nos familles, nos enfants. Nous te prions que tu leur donnes un amour pour ta parole, un amour pour la lire, la méditer, Seigneur, et pour réfléchir selon la vérité. Il y a d'autres ouvrages, d'autres littératures qui peuvent nous conduire à cela. Nous te prions de nous montrer, de nous encourager. Seigneur, nous te prions d'agir puissamment au sein de nos foyers, au nom de Jésus-Christ. Amen.